Le service de l'information de CJSO vous présente « On a des choses à dire » avec Pierre Plante et Jean Lemay. Une présentation de Luciédel Parizeau Cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
Jeudi 2 mars 2017. Bonjour mesdames, messieurs. Pour ceux qui nous écoutent en direct ce midi, pas en reprise ce soir à 19h, ben il y a l'humour certain de notre ordinateur qui a sélectionné le rythme reggae pour nous identifier la station juste avant le début de l'émission. On dit ça parce que partout sur les écrans qui ornent la station, on voit la neige qui prend beaucoup de place. Ici, ça se calme, mais ailleurs, ça semble être encore assez particulier pour un 2 mars. Souvenons-nous qu'il y a en 1971, le 4 mars, je pense, 4 ou 5 mars, il y avait eu la fameuse...
Tempête du siècle.
Celle qu'on a appelée la tempête du siècle. Ouais, moi, je m'en rappelle.
Moi aussi.
Je pelletais de la neige à l'entrée chez nous jusqu'au-dessus de la porte d'entrée.
Il y en avait.
Ouais. Bonjour, Pierre.
Salut, Jean.
Alors, bonjour tout le monde à la maison également aussi. On va d'abord, au cours de l'émission d'aujourd'hui, pour débuter, faire un retour en arrière sur ce qu'on vous a diffusé de toute la semaine et qui a provoqué des commentaires un petit peu partout. C'est la fameuse entrevue qui a été imposée à Gaëtan Barrette par notre collaborateur Jacques Marchand, qui allait à l'invitation du ministre recevoir les belles nouvelles de millions d'investis dans l'attribution de nouvelles places dans les CHSLD de la Montérégie.
Oui, avec une toute petite part pour notre région.
Oui, toute petite. Parce que nous, si vous avez regardé l'entrevue en question, on ne semble pas occuper une place très haute dans l'estime du ministre.
Ben, si vous ne l'avez pas fait,
on vous invite à le faire.
On va vous donner nos impressions sur ces propos-là, mais de toute façon, vous irez voir, ne serait-ce que pour constater qu'on n'exagère pas quand on dit que le ministre Barrette était tout au moins frondeur en répondant aux questions concernant le bronchoscope. Alors, je pense que, évidemment, le but de la conférence de presse était tout autre. C'était pour annoncer des bonnes nouvelles, comme on vient de le dire. Mais les questions qui lui ont été posées concernant le bronchoscope, évidemment, semblaient l'ennuyer.
Oui, ça faisait pas son affaire.
Ça faisait pas son affaire et ça paraissait sur son masque. Et je dois vous dire que ça fait monter une certaine émotion en nous quand on regarde quelqu'un en autorité comme ça traiter d'un sujet de façon aussi légère. Quand je dis de façon aussi légère, c'est qu'il semblait pas connaître son dossier. Et il y avait une cassette là bien préparée concernant justement l'utilisation d'un appareil comme celui-là où on doit avoir des conditions optimales, avoir un volume minimal d'examen pour remplir la mission, et il a clairement dit qu'ici, on n'avait pas le volume pour ça.
Vraisemblablement, il n'écoute pas les médias de la région pour se rendre compte que, justement, on a fait du chemin, nous, dans ce dossier-là. On a fait nos devoirs, on est allé chercher par la voie des médecins spécialistes, par la voie des gens de la Fondation, on est allé chercher l'information qui nous prouve que cet appareil-là, non seulement il est plus aussi dangereux et spécialisé qu'il le prétend dans ses restrictions, de sa façon de ne pas vouloir nous l'autoriser. Mais en plus, c'est quelque chose de basic, de vraiment de base dans la formation des nouveaux pneumologues. Et puis, en disant en plus qu'on n'a pas la clientèle pour... Il sait même pas non plus à quel point notre région est touchée durement par le cancer du poumon, par les maladies pulmonaires en général. Il est vraiment à côté de ses pompes.
Ouais, mais là, on sait qu'il a passé le poc, comme on dit. Il a envoyé la balle à l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Et au cours d'une même entrevue, vous écouterez bien attentivement, il nous dit « Ben, moi, j'ai donné une mission à l'INES ». Et à eux autres de vérifier pour voir si les données qu'on a sont bonnes ou pas. Dans le fond, c'est comme juste une petite vérification de voir si le ministère a bien fait son travail.
C'est comme s'ils demandaient simplement ce qu'ils avaient demandé à l'INES de corroborer
de valider
ce qu'ils avaient fait.
Ouais. Et il dit de façon un peu, je cherche mes mots parce que j'ai le goût d'être dur. désinvolte, en tout cas, on peut, il y a toute une série d'adjectifs qu'on pourrait appliquer à son comportement. Il nous dit, bah, si l'Inès dit oui, ben, ça sera oui, puis si l'Inès dit non, ben, ça sera non. Et puis, on s'en va à autre chose.
Allez, hop, cascade.
Enfin. Alors, tout ça, ça nous amène à une chose, c'est la mobilisation qui est très bien démarrée en termes de signature de pétition. On parle aussi d'une marche
près de 4000, excuse, pendant que tu parles de la pétition, je veux dire qu'on est à près de 4000 noms qui sont accumulés soit électroniquement sur le site de l'Assemblée nationale ou par les versions papier qu'on a ici chez nous à la station, mais qui sont véhiculés aussi par notre ex-collègue Jean-Marc Lebeau
dans
le commerce de la région.
Jean-Marc fait un travail splendide là-dessus, est très impliqué. Et c'est lui qui nous disait qu'on devrait avoir jusqu'à maintenant aux alentours de 1200 signatures papier, plus les 2269 qu'on avait ce matin à l'Assemblée nationale de façon électronique. Bon, bref, c'est un beau départ, faut continuer. Faut participer à la marche organisée par le Conseil central de la CSN, de la Montérégie. Le 17 mars, on parle d'une marche citoyenne qui va partir de l'hôtel de ville de Sorel-Tracy, qui va se diriger vers l'hôpital. Et si vous trouvez des moyens originaux de manifester dans ce dossier-là, faites-le. Parce que on n'est pas sûr de l'avoir, même si nous, on pense qu'on a toutes les bonnes cartes dans notre jeu, on n'est pas sûr encore de pouvoir l'avoir. Et on sait que l'offensive de centralisation, c'est quelque chose qui va se poursuivre. Et le ministre Barrette a l'air assez déterminé là-dessus.
Alors, faut attirer son attention. Là, on est comme sur une carte où on est un point minuscule et il faut que la mobilisation citoyenne agisse comme une loupe qui montre que regardez ici, là. Regardez vraiment ce qui se passe. Ouais. Arrêtez de répéter la même cassette, là, puis regardez vraiment ce qu'est le dossier.
Et on est capable dans les régions de le faire.
Si oui, on est capable de le faire. Je suis sûr qu'on peut y arriver. Rapidement, il y a une autre nouvelle un petit peu alarmante qui est tombée cette semaine, c'est la fameuse carpe asiatique. Moi, j'y comprenais pas grand-chose, tu me l'as expliqué tantôt. C'est quand même, ça peut avoir des conséquences assez graves.
Assez grave, il faut pas paniquer, il faut pas exagérer, mais ce qui se passe avec, en fait, c'est la carpe de roseau, c'est une des variétés de la carpe asiatique qui serait rendue dans nos eaux, dans notre région. C'est un poisson qui en prend large, comme on dit, hein. C'est un poisson ravageur.
Pas juste à cause de sa grosse taille.
Ouais, qui bouleverse les écosystèmes où il s'installe. Ouais. Et puis, il aime les herbes. on le retrouve ici dans la région. Comment on sait qu'on le retrouve? Bon, l'été dernier, on a pêché un de ces spécimens-là à contre-cœur. Donc, on l'a vu. On l'a peut-être pas mangé, mais on l'a vu. Mm. Il pesait juste 60 livres, hein. C'était un petit spécimen. Et on a fait des échantillons à grandeur du fleuve Saint-Laurent sur 16 échantillons, en fait on a fait 110 échantillons et il y a 16 endroits entre le lac Saint-François et le lac Saint-Pierre où on a trouvé des traces de ce poisson-là. Quand je dis des traces, c'est qu'on n'a pas trouvé le poisson directement en faisant les tests, c'est qu'on a pris des échantillons et selon des procédés scientifiques dans lesquels je n'entrerai pas,
non.
Parce que j'ai pas la formation
on
pour,
pas le temps.
On a réussi à dénicher des extraits d'ADN de ce poisson-là, hein. C'est formidable, là.
On est
capable de dire que le poisson est passé dans ce coin-là et qu'il a laissé sa trace, bref, sur 16 endroits où on a détecté la présence de ce poisson, ce vilain poisson.
Il est facile de déduire que c'est pas l'individu qui a été pêché à contre-cœur qui s'est promené du lac Saint-Laurent.
Non.
Jusqu'ici,
là,
parce qu'ils sont nombreux.
Il doit en avoir quelques-uns. Et parmi les 16 points où on retrouve cet ADN-là, il y en a 5 ici, là, dans la région, à l'embouchure du Richelieu et tout près, et 2 à l'entrée du lac Saint-Pierre. Et il y a des hautes herbes et la carpe de roseau, comme on l'appelle, elle est friande de ces hautes herbes-là, puis elle adore la perche chaude et le brochet.
Oui, ben c'est ça. On sait qu'on a de la misère à faire remonter la population de ces poissons-là chez nous pour pouvoir continuer à en consommer. Écoute, rapidement, parce qu'on va revenir sur ce sujet-là, je pense qu'il y a trop d'importance qu'on fasse une entrevue là-dessus, mais rapidement, ça veut dire que ça explique entre autres ce qui se passe avec nos voisins de contre-cœur, où on va empêcher les pêcheurs d'utiliser des appâts vivants, des manettes, comme on dit chez nous, parce qu'à cause de ça, parce que ça a un effet.
L'année longue Auparavant, on pouvait l'utiliser l'hiver. Maintenant, on ne pourra pas. Les gens sont complètement bouleversés de ça. Puis, il y a d'autres conséquences aussi, parce que dans les mesures préventives, on va inciter les gens qui font du nautisme à nettoyer plus régulièrement nos embarcations, d'un petit casse-tête, puis on va gérer les barrages. Mais écoutez, comment tout ça va proliférer, puis qu'est-ce qu'on doit s'attendre de ça? Est-ce qu'on doit exagérer la situation? Encore là, on donnait souvent dans les dernières semaines l'exemple du bronchoscope pour dire il aurait fallu se mobiliser avant, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Mais dans le cas présent, il va falloir inciter les autorités du ministère à faire ce qu'il faut pour nous débarrasser de ce vilain poisson.
Rapidement, écoute, coup de chapeau, cette semaine, c'est sûr qu'elle prend toute la place. Ouais. D'ailleurs, il y a plus de 2500, voire peut-être même près de 3000 où on se parle, visionnement de la vidéo de son entrevue ici à la station. Patricia Larcher, la voix 5, qui donc lui ouvre les bras et les portes.
Oui, une belle étape de franchie.
Oui, alors on va suivre ça de très près. Bravo Patricia. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez voir et Patricia et l'entrevue avec le ministre Barrette, une façon très simple, c'est d'aller sur notre page d'accueil. Vous allez voir le petit symbole YouTube en dessous du logo de la station. Cliquez là-dessus et toutes les vidéos qu'on réalise sont là-dessus. Alors, vous allez rapidement les retrouver toutes les deux. Début plutôt des annonces de candidature au niveau municipal dans la région.
Ouais, il fallait s'y attendre, même si on est encore à plusieurs mois de l'échéance du mois de novembre. Il y a des gens qui sentent le besoin de laisser leur trace sur la volonté qu'ils ont de revenir siéger à nouveau. C'est le cas d'Alain Maher à Sorel-Tracy, qui la semaine dernière a annoncé qu'il allait solliciter un troisième mandat. Il y en a d'autres qui vont suivre, évidemment. Puis c'est aussi le temps, dans les mois qui précèdent, de peut-être aussi dire qu'on tire notre révérence, qu'on laisse notre place à d'autres.
C'est le cas de notre invité un peu plus tard dans l'émission, Olivier Gravel, maire de Saint-Joseph-de-Sorel, qui a annoncé qu'il ne briguerait pas les suffrages en novembre prochain, ce qui a amené aussi l'annonce d'une candidature
d'un citoyen de
Saint-Joseph, Vincent de Guise. On parlera de tout ça avec M. Gravel tantôt, mais pour l'instant, on va aller rejoindre, parce qu'il est très patient, il nous attend au téléphone, on va aller rejoindre le député de Richelieu, Sylvain Rochon. On va revenir sur le dossier du bronchoscope avec lui. Il nous confiait avant d'entrer en onde qu'il a également rencontré lui-même le ministre Barrette récemment. On en jase avec lui après ceci.